Le Monde aujourd'hui. À Washington.
19h30 en temps universel, 15h30 à Washington. Bienvenue à l'écoute de cette édition du Monde aujourd'hui. Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique à la une ce soir. Au Soudan, le Premier ministre Hamdok n'a pas encore annoncé la composition de son gouvernement post-Béchir. Gambie, funérailles à Banjul du Premier président Sir Dawada Jawara, disparu mardi à 95 ans. Le Conseil de sécurité de l'ONU maintient ses sanctions contre des contrevenants à la paix de 2015 au Mali. Offensive judiciaire au Royaume-Uni contre la décision du Premier ministre de suspendre le Parlement pendant plus d'un mois. Et dans 10 minutes, vous suivrez l'économie et les sports après le journal. Le Soudan, toujours dans l'attente de l'annonce de son premier gouvernement depuis la chute d'Omar el-Béchir, les discussions se poursuivent autour du choix des ministres qui devront gérer les multiples maux du pays durant sa transition vers un pouvoir civil. De Khartoum, la correspondance de Salah Mohamed El-Hassan.
L'inquiétude augmente à cause du retard de la composition du nouveau gouvernement attendu. Monsieur Hamdok, le nouveau premier ministre, n'a rien ajouté à sa déclaration d'avant-hier où il disait qu'il était en train d'examiner les listes proposées par les forces de la Déclaration de liberté et de changement en lumière des critères convenus. De leur part, les forces de la Déclaration de liberté et de changement n'ont rien déclaré officiellement. Mais elle est claire. Quand on regarde les listes proposées par les forces de liberté et de changement, que ces forces politiques n'ont pas respecté le texte de la déclaration constitutionnelle qui accorde un quota d'au moins 40% aux femmes. A rappeler que le Soudan vit sans gouvernement depuis le 11 avril de cette année, jour de la chute du gouvernement des dictateurs Béchir. Khartoum, Salah Mohamed El-Hassan, Voix de l'Amérique.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé à l'unanimité et pour un an les sanctions qui peuvent être imposées aux individus contrevenant à l'accord de paix de 2015 au Mali. En juillet, le Conseil de sécurité avait ajouté 5 noms à sa liste de Maliens sanctionnés par des interdictions de voyage, dont un parlementaire local et un homme d'affaires. 3 Maliens ont été sanctionnés en décembre. Au Libéria, le parti du président Jojoé a remporté le siège de député en jeu lors de l'élection législative partielle organisée mercredi dans un district de Moronvia. L'opposante Telia Ouré a reconnu sa défaite et félicité son rival Aboubana Camara. Les Gambiens ont rendu hommage à leur premier président, Sir Dawada Jawara, décédé mardi à l'âge de 95 ans. Les funérailles d'État ont eu lieu à l'Assemblée nationale à Banjul. Le point avec Irène Herman Ongbo.
L'actuel président Adama Barrow a décrété une semaine de deuil national du 27 août au 2 septembre. Monsieur Barrow a rendu hommage à l'ancien président dans un discours avant son inhumation dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La dépouille a été portée par des officiers de l'armée en présence de nombreuses personnalités et des membres de sa famille. Plusieurs personnes se sont recueillies devant son cercueil recouvert du drapeau gambien. Sir Dawada Jawara a été le premier président de Gambie et décédé mardi dans sa résidence de Fajara, non loin de Banjul. Né en 1924 dans une famille mandingue musulmane à Barajali, où son père était commerçant, ce vétérinaire formé au Ganapu en Écosse était entré en politique en 1960 en devenant le leader du Parti progressiste du peuple. Premier ministre en 1962, il négocie et proclame en 1965 l'indépendance de la Gambie. Il a refusé l'intégration à son puissant voisin le Sénégal en juillet 1994, il était renversé lors d'un putsch sans effusion de sang mené par Yahya Jammeh qui va rester au pouvoir jusqu'à sa défaite en décembre 2016 face à l'opposant Adama Barrow.
Au Sénégal, la mort de 2 détenus dans la principale prison de Dakar suscite des critiques contre les autorités. À l'origine, des étincelles produites par un ventilateur dans une chambre provoquant un mouvement de panique parmi les prisonniers. Les défenseurs de droits humains appellent à mettre fin à la surpopulation carcérale et la vétusté des établissements pénitentiaires. Un évêque congolais a dénoncé un désastre écologique dans le sud-est de la République démocratique du Congo qui menace une essence de bois menacée d'extinction au cœur de la forêt des Miombo dans le Haut-Katanga, à la frontière avec la Zambie. Cet arbre, également nommé bois rouge en RDC, est une variété de bois très dense, prisée pour la construction et l'ébénisterie. Depuis 2016, Mgr Muteba dénonce des actes d'exploitation illégale commis par des Chinois dans la province du Haut-Katanga. Les femmes et les enfants se trouvant à bord du navire humanitaire More Jonio en Méditerranée seront autorisés à entrer en Italie. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le ministère de l'Intérieur, même si l'interdiction d'entrer dans les eaux italiennes reste en vigueur. Un autre navire humanitaire de l'ONG allemande Mission Lifeline a secouru une centaine de migrants cette semaine, mais s'est vu refuser l'entrée dans les eaux territoriales italiennes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les opposants à un Brexit durent lancé ce jeudi une offensive judiciaire contre la décision du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement pendant plus d'un mois. Cette suspension a indigné une bonne partie des Britanniques et a entraîné la démission de la chef des conservateurs écossais. Les précisions de Eki Abadou.
Ruth Davidson, favorable au maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, a évoqué le conflit qu'elle a ressenti sur le Brexit dans sa lettre de démission. Elle a exhorté Boris Johnson à trouver un terrain d'entente avec Bruxelles. La quadragénaire avait su redonner un nouveau souffle au Parti conservateur en Écosse qu'elle dirigeait depuis 2011. Près de 75 parlementaires sont attendus en urgence par la plus haute instance civile d'Écosse avant une audience sur le fond le 6 septembre. Un autre recours introduit par Raymond McCord, militant des droits de l'homme, sera examiné vendredi par la Haute Cour d'Irlande du Nord. La décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement à partir de la deuxième semaine de septembre et jusqu'au 14 octobre, deux semaines avant le Brexit, a suscité une vague d'indignation au Royaume-Uni. Monsieur Johnson a dit vouloir mettre ce temps à profit pour élaborer une nouvelle politique ambitieuse pour le pays. Mais l'opposition y voit une manœuvre pour empêcher les députés de bloquer un Brexit sans accord le 31 octobre prochain.
Deux candidats à la Maison-Blanche ont été sélectionnés ce jeudi pour le prochain débat démocrate en septembre. Le favori centriste Joe Biden et la sénatrice progressiste Elizabeth Warren, portés par les sondages, s'affronteront pour la première fois directement. Les critères renforcés de sélection ont été fatidiques à plusieurs prétendants démocrates qui ont préféré jeter l'éponge plutôt que de poursuivre leur campagne privée. Les États-Unis vont maintenir 8600 militaires en Afghanistan. Cette mesure interviendra après un accord actuellement négocié avec les talibans en échange de l'engagement des insurgés à ne plus permettre à Al-Qaïda ou d'autres groupes terroristes d'utiliser les territoires sous leur contrôle. Yacouba Ouedraogo.
On va réduire nos effectifs à 8600, a déclaré le président américain, ajoutant, je cite, « Nous allons toujours avoir une présence en Afghanistan ». Il a insisté sur le fait qu'une force résiduelle va permettre d'avoir des renseignements de haut niveau. Au cœur de l'accord négocié, un retrait plus ou moins important des Américains, avec un calendrier, en échange de l'engagement des insurgés, à faire en sorte que les territoires qu'ils contrôlent ne soient plus utilisés par Al-Qaïda ou d'autres groupes terroristes. L'année dernière, Washington a entamé des pourparlers directs avec les talibans, dont le 9e cycle est en cours à Doha, au Qatar. Environ 14 000 militaires américains sont déployés en Afghanistan. Les États-Unis ont envahi l'Afghanistan en 2001 pour traquer Al-Qaïda. Depuis, les forces américaines avaient atteint 98 000 soldats au plus fort des combats en 2011. L'ancien président Barack Obama a ramené leur nombre à 8 400 avant que son successeur n'accepte d'envoyer des renforts en 2017. Donald Trump s'est engagé à tourner la page de cette guerre, jugée trop coûteuse en vies humaines et en argent.
La ministre française de la Défense, Florence Parly, a affirmé que l'Union européenne avait des réserves sur l'opération navale américaine d'escorte dans le détroit d'Ormuz et précisé que certains pays voulaient déployer des moyens européens dans la région pour assurer une présence dissuasive. Le premier ministre pakistanais Imran Khan a appelé aujourd'hui ses concitoyens à manifester massivement demain vendredi dans tout le pays pour dénoncer la situation dans la partie sous contrôle indien du Cachemire, pomme de discorde entre les deux pays. Le territoire en est en est actuellement à sa quatrième semaine de couvre-feu et de blocage des communications. Des milliers de personnes ont été arrêtées. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, suivez la Minuteco signée Nanit Talani.
En Guinée, la principale société minière BHP est sur le point de céder sa participation dans le gisement de minerai de fer Nimba. Trois grandes sociétés dont les noms ne sont pas dévoilés sont en compétition pour développer la moitié de Simandou, la plus grande réserve de fer du pays. Elles ont accepté les termes de l'accord et ont déjà payé $300,000 pour l'accès aux données et auront 45 jours à compter du 19 août pour préparer leurs offres. La Banque nationale de commerce de Tanzanie est frappée d'une amende de $435,000 pour n'avoir pas mis en place un centre de données. C'est la deuxième banque à être sanctionnée pour le même motif. Le secteur tanzanien des services financiers a été frappé par une flambée des créances qui ont freiné la croissance du crédit au secteur privé. La Banque centrale a ordonné aux institutions financières d'établir des centres de données au risque de s'exposer à de lourdes amendes. Pour terminer cette Minute Éco, MTN Nigeria a lancé un service de virement de fonds mobiles ciblant les personnes sans compte bancaire qui représentent plus de la moitié des 180 millions d'habitants. MTN Nigeria ambitionne de devenir une banque de services de paiement et veut étendre ses services de transfert d'argent et d'autres services financiers. Le Nigeria a annoncé l'année dernière qu'il permettrait aux entreprises de télécommunications de fournir des services à des millions de Nigérians sans compte bancaire.
Sans tarder, nous passons à la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On va d'abord au Mali où Mamoudou Touré est le nouveau président de la Fédération malienne de football.
Oui Eric, sur les 62 voix, Mamoudou Touré, communément appelé Bavieux, a récolté 32 contre 30 pour Salaha Babi. Le troisième candidat Alassane Souleymane n'a eu aucune voix. Élu pour 4 ans, Mamoudou Touré place son mandat sous le signe de la réconciliation des acteurs du football malien qui a souffert d'une crise pendant 5 ans.
Nous sommes tous des Maliens. Nous savons que la crise a atteint un tel niveau qu'aujourd'hui, il faut qu'on se mette ensemble pour donner une très bonne image du football malien. Nous voulons qu'au cours de ce mandat, qu'on amène les hommes à se comprendre sur l'essentiel. Le football est la chose qui est extraordinaire, qui unit les gens à un tel niveau de complicité qu'il faut très rapidement aller à une réconciliation.
Mamoudou Touré, nouveau président de la Fédération malienne de football, au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Aman Yang a été élu président de la FIBA Monde.
L'élection a eu lieu aujourd'hui à Beijing, en Chine, où commence demain la Coupe du Monde de basketball. Le Malien Aman Yang, président de FIBA Afrique, seul candidat en lice, est désormais président de la Fédération internationale de basketball pour les 4 prochaines années. Un honneur pour l'Afrique, selon le président de la Fédération malienne de basketball, que nous avons joint à Beijing, Haruna Maïga.
Bon, c'est d'abord, on dirait que l'Afrique est honorée. Il le fait sous la continuité. L'Afrique a commencé déjà à avoir 5 candidats à la Coupe du Monde.
Haruna Maïga, président de la Fédération malienne de basketball, joint à Beijing, en Chine.
Le Ghana et le Botswana vont parler d'eux aux 400 mètres des Jeux africains.
Les Black Stars se sont imposés aux 4 x 100 mètres relais et le Botswana a remporté le 400 mètres. Depuis, Rabat, Kader Traoré a suivi ses épreuves.
Le Ghana a créé la grosse sensation en s'imposant dans le relais 4 x 100 mètres grâce à un temps de 38 secondes 38. Les Black Stars du Ghana ont dominé la concurrence pour l'emporter devant des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Pour le capitaine de la team ghanéenne Chan Sanfo Antui, qui n'est autre que le dernier relayeur, lui et ses coéquipiers étaient venus pour chercher l'or et ils l'ont obtenu.
Aujourd'hui, l'équipe était vraiment prête pour cette compétition et comme nous l'avions dit, nous étions venus pour la médaille d'or et nous l'avons eu.
Le Botswanais Scott Lengo a remporté le concours de 400 mètres avec un chrono de 45 secondes 47. Il a su conduire sa course pour franchir la ligne d'arrivée en première position.
C'est notre pain quotidien, c'est comme le football au Brésil. Je suis très heureux. C'est la première fois pour moi de prendre part à une compétition internationale majeure. Gagner cette médaille m'encourage donc à travailler davantage.
Le Burkina a remporté la médaille d'argent des 100 mètres et avec Marthe Kouala. En 13 secondes 20 centièmes, elle s'est classée deuxième derrière la Nigériane Amoussan Tobi et devant la Sud-Africaine Taylon Bilt. Kader Traoré, à Rabat pour VOA Afrique.
Et c'était l'espoir de Yacouba Ouédraogo. À demain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Retour avec vous, Eric Manirakiza, dans Le Monde aujourd'hui pour aborder les dossiers du jour. Au Royaume-Uni, la suspension du Parlement suscite beaucoup de réactions pour les pro-Brexit. Le Premier ministre Boris Johnson est dans sa prérogative constitutionnelle. Pour d'autres, comme le député travailliste Lloyd Russell-Moyle, il s'agit d'un coup d'État antidémocratique d'un dictateur en carton. Pour analyse, Claire Brangibourg a joint le directeur de l'Observatoire du Brexit, Aurélien Antoine.
Depuis que Theresa May a démissionné et que l'hypothèse Boris Johnson de commencer à devenir une certitude, plusieurs hard Brexiters, Jacob Rees-Mogg, Dominic Raab, avaient envisagé cette possibilité pour en terminer avec le Brexit. Très rapidement, mes collègues et moi-même qui s'intéressons à la question, nous sommes interrogés sur la validité constitutionnelle de cette possibilité et ses répercussions politiques. Donc quand c'est arrivé, finalement, on n'a pas été tellement surpris.
Est-ce que cette décision a été prise pour empêcher le Parlement de légiférer, à votre avis ?
Alors, l'empêcher totalement, non. En limiter sérieusement la capacité, oui. Et c'est en cela que la manœuvre de Boris Johnson est, je le dis presque à contre-cœur, quand même bien pensée, puisque le Parlement va pouvoir réagir, mais de façon très organisée et de façon prompte, parce que sinon, il risque d'empêcher effectivement la délibération.
Alors, des milliers de personnes ont manifesté en scandant « Arrêtez le coup d'État » hier au Royaume-Uni. Est-ce pour vous un coup d'État ?
Alors, je suis juriste et notamment spécialiste de droit constitutionnel. Un coup d'État, c'est prendre le pouvoir de force en dehors de la légalité, par des militaires ou par d'autres autorités politiques, sans respecter aucune forme de procédure. Or, Boris Johnson respecte une procédure. La prorogation du Parlement est une prérogative constitutionnelle dont le monarque dispose sur la recommandation du Conseil privé, donc du Premier ministre. Donc, c'était possible. C'est la motivation qui pose problème, mais même sur ce point-là, comme l'a rappelé Boris Johnson, le Parlement aura l'occasion de le contrer tout début septembre et à partir du 14 octobre et de se prononcer sur l'issue des négociations avec le Conseil européen éventuel le 17 octobre. Donc il y a encore des fenêtres de tir. Le Parlement n'est pas complètement muselé, comme je viens de vous le dire, on a limité sérieusement ses marges de manœuvre. Ensuite, ne l'oublions pas, durant l'hiver 2019 et le printemps 2019, le Parlement a beaucoup discuté, s'est beaucoup prononcé sur le Brexit, sur l'accord qui avait été conclu par Theresa May, sur les alternatives, et il n'a trouvé aucune sortie. Donc aujourd'hui, l'alternative est simple. Soit ils arrivent à s'organiser contre Boris Johnson rapidement et de se décider sur une solution positive, soit c'est Boris Johnson qui l'emportera. Mais il y a des recours juridictionnels, il y a encore des moyens parlementaires d'empêcher la victoire de Boris Johnson. Or, dans un coup d'État et dans une dictature, tout cela n'est évidemment pas possible.
Aurélien Antoine, professeur de droit public à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne en France.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
À Washington, le commandement spatial américain sera officiellement lancé ce soir lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche. Cette initiative est censée renforcer les efforts américains dans l'espace, notamment en matière de renseignement, communication, navigation et alerte de missiles. La mission principale de ce nouveau commandement sera la dissuasion contre les menaces mondiales. Nathalie Barge a joint Jean-Vincent Brisset, expert en défense à l'IRIS.
Le commandement spatial tel qu'il va être fait aux États-Unis n'est pas quelque chose qui va être créé à partir de rien. C'est quelque chose qui va être créé en groupant au sein d'un commandement des choses qui existent déjà dans les différentes armées, hein, et qui va rationaliser tout ça. Ensuite, à partir du moment où les gens porteront plus l'uniforme d'une armée, mais l'uniforme du commandement spatial, il y aura de la recherche, de l'imagination, de la théorisation qui pourront conduire à d'autres choses.
On parle notamment de capacités spatiales adaptées au combat, de dissuasion nucléaire, etc. Qu'est-ce que cela représente concrètement ? Qu'est-ce qu'on a déjà au niveau spatial, au niveau militaire ?
Alors, on va rien avoir de nouveau sur le plan militaire dans un premier temps. Ce qui est spatial pour les militaires, c'est de la reconnaissance, c'est-à-dire à la fois faire des photos de ce qui se passe au sol, et puis analyser les signaux électroniques, analyser un certain nombre de choses, des histoires de température, des histoires de déplacement et autres. Ça, c'est la partie reconnaissance. Il y a une partie communication qui est un petit peu là, le pendant des communications satellitaires civiles. Il y a une partie guerre dans l'espace qui est en train de se développer pour abattre les satellites ennemis. Et il y a une partie navigation qui est représentée par le GPS, qui est un ensemble de satellites qui permettent, par différents moyens, d'avoir la position exacte de quelqu'un au sol, selon qu'on a besoin des militaires en permanence.
Est-ce que l'on pourrait arriver à un certain point où on pratiquerait notamment des frappes chirurgicales à partir de l'espace ? Est-ce que ça se fait déjà, ça ?
Ça ne se fait pas à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il y a des frappes chirurgicales à l'intérieur de l'espace qui consistent à abattre d'autres satellites. Parce que quand on a pensé à abattre d'autres satellites, dès le début des satellites, dans les années 60, tout ce qu'on savait faire, c'était une grosse explosion le plus près possible d'un autre satellite. Maintenant, les interceptions de satellites, comme ont fait les Chinois, mais comme ont fait les Américains et les Russes aussi, ça consiste à provoquer une collision matérielle entre des choses qui se trimballent à plusieurs milliers de kilomètres heure, qui font la taille d'une voiture au maximum.
Ce commandement spatial prévoit notamment d'assurer, dit-on, la liberté d'action dans l'espace. Alors, est-ce qu'il y a une forme de réglementation ?
Alors, il est théoriquement interdit d'avoir de l'armement dans l'espace par les traités internationaux. C'est quelque chose qui est violé. L'expérimentation chinoise de 2007 a ouvert la porte à maintenant une dérégulation et à un arrêt de cette espèce de statu quo qui existait. Donc maintenant, les satellites, il y aura des satellites qui, pour assurer la protection des satellites dont on a besoin, vont être des satellites capables d'intercepter et de casser et de tuer les satellites intercepteurs. Ce qui veut dire qu'on se retrouve dans l'espace avec exactement ce qui se passe dans les airs, sur terre et sur mer.
Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche à l'Institut de relations internationales stratégiques.
Retrouvez VOA Afrique sur Top Congo sur 88.4 FM à Kinshasa.
Un éboueur de New York, Nelson Molina, est un collectionneur hors du commun. Depuis plusieurs années, il récupère et conserve des objets uniques retrouvés parmi les ordures, des trésors au fond des poubelles. Vladimir Linsky a rencontré son collectionneur très particulier. C'est dans ce récit de Lionel Lounani Lagahim.
La poubelle pour l'un est souvent un trésor pour l'autre. C'est une leçon de Nelson Molina. Cet ancien éboueur a découvert ces 34 dernières années plus que des pierres précieuses en fouillant les dépotoirs de New York.
This was high tech when we were kids.
Ça, c'était la technologie de pointe lorsque nous étions jeunes. C'est un 8-piste qui date des années 70-80. Lorsque je l'ai trouvé, l'appareil marchait encore. Je l'avais donc mis dans le garage et je jouais la musique de Frank Sinatra à fond la caisse pendant que je travaillais ou nettoyais.
Lorsque Nelson Molina a pris sa retraite, il est devenu collectionneur à temps plein.
J'ai ce sentiment, lorsque je ramasse un sac, je sais qu'il y a quelque chose dedans, une valeur ou quelque chose de fragile. Alors au lieu de jeter les sacs dans la benne, je le prends avec délicatesse.
Lorsque Molina a décidé d'exposer sa collection de quelques 44 000 objets dans un garage géant des services d'assainissement de New York, une partie de la collection a même fini dans un musée tenu par Open House New York. Alicia Gruyon y est curatrice.
L'idée derrière cette exposition est de mettre en valeur les histoires de New York, la magie particulière de cette ville, ses quartiers, ses habitants et ses communautés. L'une des pièces les plus anciennes date de 1901. C'est un passeport d'immigré allemand et cela en dit long sur les gens qui ont vécu ici.
Dans la collection, on retrouve aussi des portraits dont certains sont vieux de 100 ans.
Toutes ces photos que j'ai trouvées à des époques différentes, vous avez des photos des 1901, 1935, 1939, vous avez un journal de 1922, un autre de 1920. Je ne pouvais pas lire ce qui y est écrit.
Parmi toutes ces pièces rarissimes, une œuvre complète de Molière publiée à Paris en 1810 à un projecteur contenant encore des diapositives de Batman. Les jouets ont toujours eu une place spéciale pour le collectionneur.
J'avais deux frères et trois sœurs. Nous n'avions pas grand-chose pour Noël. Alors avant Noël, j'allais dehors dans un rayon de trois pâtés de maison. Je fouillais les poubelles pour ramasser tous les vieux jouets que les gens jetaient. Quand je revenais à la maison avec ce petit sac pour mes frères et sœurs, c'était comme si le Père Noël arrivait à la maison.
Les gens jettent trop de choses qui peuvent encore servir. Maggie Lee, responsable de gestion au département de l'assainissement de New York.
Il a une approche pour le moins d'ordures possible et je pense que tout New-Yorkais, n'importe quel humain, devrait en tirer leçon, reconsidérer ses habitudes en matière de déchets et réfléchir comment réduire tout ça.
La collection de Molina appartient à la ville de New York, mais elle enseigne une leçon universelle. Un trésor peut être caché dans ce que d'autres ont jeté à la poubelle.
À partir du mois de septembre, VOA Afrique vous présentera Learning English, un programme entièrement en anglais pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. La lecture posée, les phrases et le vocabulaire ont été spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Très bientôt, tous les soirs à 21h30 TU, après English USA, sur FM, sur VOA Afrique.
Autrefois épicentre d'un groupe État islamique, autoproclamé sur certaines parties de la Syrie et de l'Irak, Raqqa se remet lentement après sa libération. La crainte est persistante au sein des habitants qui pensent que les cellules dormantes de Daesh pourraient se réveiller et se venger contre ceux qui vivent maintenant en paix. À Raqqa, le reportage de Heather Murdoch dans ce récit de Yacouba Ouedraogo.
L'eau du fleuve Euphrate coule dans ce lit des rivières urbaines dans cette ville jadis occupée. Nous sommes à Raqqa, autrefois capitale de ce que les militants du groupe État islamique appelaient leur califat, une vaste étendue de terre partagée entre la Syrie et l'Irak. La ville se remet lentement d'une guerre brutale qui a permis d'expulser les extrémistes qui l'ont gouvernée pendant des années. Une reprise du quotidien jonchée par des attaques sporadiques de plus en plus récurrentes, perpétrées par des cellules dormantes de Daesh. Khalid Barkal, porte-parole du Parlement de Raqqa.
En tant qu'armée, elle est vaincue, mais il y a encore des cellules dormantes qui sont dangereuses pour les gens.
Les souvenirs de l'application stricte de la charia sont encore vifs. Abdullah, habitant de Raqqa.
Quand ils sont arrivés, ils ont dit « nous sommes des musulmans » et nous les avons crus. Mais ils ont arrêté une personne pour avoir volé et comme punition, ils lui ont coupé la main sur la place Naïm.
La place Naïm, ou place du paradis, a été surnommée Hell Square, entendez place de l'enfer sous le régime des djihadistes, parce que les têtes coupées des présumés espions ou criminels y étaient clouées sur une clôture et y restaient pendant des jours. Ce stade de football était autrefois une prison réputée et ce museau de jardin est encore jonché de mines. Le jardin est maintenant fermé, le stade est en cours de nettoyage et la clôture de la place Naïm a été refaite. Mais ces changements n'ont pas effacé les souvenirs des habitants de Raqqa ni apaisé leur crainte que les islamistes tenteront de revenir.
Désormais, je suis un robot.
Salut les amis, ici Roger Montou, la voix de l'Amérique, en direct de Washington DC, la capitale des USA. Restez branchés ce jeudi dans RM Show à 20h temps universel. Au programme, hommage à DJ Arafat. DJ Arafat a fait tomber les frontières du coupé-décalé. On en parlera ce jeudi avec plusieurs invités de marque. Envoyez-nous vos réactions par SMS ou WhatsApp au plus 1 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous au plus 1 202 619 31 40. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. La mise en onde assurée par Firmin Koyaweda, à la console de Patrick Dea. Ainsi va le monde aujourd'hui. Eric Manirakiza était à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à vous tous. Au revoir.
Bienvenue à bord.